Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Bienvenue dans l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Cette émission réalisée avec l'assistance technique de Xavier Lecomte, que je remercie d'ailleurs très amicalement, est consacrée à l'écrivain Paul Nison et à son nouveau livre « Le regard ramassé », une anthologie de l'art moderne, un essai traduit de l'allemand par Frédéric Joly, est paru aux éditions Actes Sud. Paul Nison, qui est né à Berne en 1929, est un écrivain mondialement connu. On lui doit notamment « L'année de l'amour » paru en 1985, ou « Dans le ventre de la baleine » ou bien encore « Le ravissement de soi, récit et réflexion » paru toujours chez Actes Sud en 2008. Son œuvre est monumentale et il passe souvent pour un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction. Paul Nison s'est déclaré en effet très tôt auto-fictionnaire, dans le sens qu'il utilise sa vie vécue pour en faire des livres de fiction. Aujourd'hui, c'est du Paul Nison ami des artistes et critiques d'art dont nous allons parler. Ses travaux précoces consacrés à l'art, nous dit-il, doivent donc être considérés comme une partie de mon parcours d'écrivain, sinon comme un chapitre de mes années d'apprentissage de prosateur. Mais le mieux est de vous laisser découvrir par vous-même ce regard unique sur la modernité. Paul Nison, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ici chez vous, dans un lieu qui est très habité. Je pense que c'est là où vous écrivez, Paul Nison.
Oui, vous savez, depuis très longtemps, j'ai plus d'appartement pour... Je considère ça comme un atelier. Quand j'étais encore célibataire, parce que je suis divorcé, entre-temps, j'ai jamais écrit à la maison, j'ai toujours écrit dans les ateliers. Mm. Il y avait aussi un avantage, parce qu'en allant à l'atelier, il fallait toujours traverser la ville. Et découvrir, parce que j'en ai peut-être eu une vingtaine ou même plus d'ateliers quelque part à Paris. Vous savez, des choses qu'on connaît de bouche à l'oreille, comme ça, par hasard, pas du tout choisi, pas du tout. Et dans l'atelier, il n'y avait rien dedans. C'est comme ça, alors ça, je le considère comme un atelier. C'est un désordre terrible. Et puis, il n'y a pas d'esthétisme chez moi, il n'y a pas rien. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a jamais été intéressé, par exemple, la culture de l'habitation, ça m'est complètement égal. Mm-hmm. J'aime bien être chez les gens qui ont un certain entourage, civilisé ou plus, un peu plus. Mais pour moi, ça joue jamais joué un rôle.
Pas de déco.
Non, pas de déco, non. Ah. Non.
Et puis alors, on pourrait parler d'atelier d'écriture.
Pardon ?
On pourrait parler d'atelier d'écriture, Paul Nison.
Absolument, oui.
Parce que. Et justement, nous allons parler de votre livre « Le regard ramassé » qui vient de paraître, c'est une anthologie de l'art moderne qui vient de paraître chez Actes Sud et qui a été traduit de l'allemand par Frédéric Joly. Alors, ce regard ramassé, Paul Nison, est-ce qu'il fait écho à un précédent livre, je pense, qui s'appelait « Le ramassement de soi » ?
C'était pas une question, non?
C'est une question.
C'est quoi?
La question, c'est de savoir si ce livre fait écho à un précédent livre.
Ça vient pas de moi. Par exemple, dans ma politique de l'œuvre, j'ai toujours supprimé ou même pas mentionné le travail que j'ai fait sur l'art. Et un jeune homme, d'ailleurs, qui a aussi fait ce film sur moi, une exposition dans un musée, a ramassé tout ça et choisi, et il m'a dit que j'ai autant de publications sur l'art comme de prose littéraire. Et moi, j'avais toujours supprimé, j'ai pensé, non, moi, je suis écrivain, l'autre, c'est plutôt... Mais en même temps, en fait, c'est la même écriture. Et puis, le regard sur l'art moderne ou contemporain a joué, est resté vivant et important pour moi.
Mmh. On peut dire que c'est un regard premier. C'est un regard premier parce que finalement, ce sont des textes, c'est des textes de jeunesse aussi. Ce sont des textes que vous avez écrits assez jeunes. Et vous avez commencé d'ailleurs par écrire une thèse sur Van Gogh. Donc,
au départ, c'était visuel qui vous interpellait.
Oui, oui, absolument. Et il faut dire que c'était l'apprentissage du regard. Parce que, en fait, quand j'étais très jeune, j'étais complètement enfermé en moi-même. J'avais pas de regard sur l'extérieur. Je vivais dans une sorte de musique intérieure, et ça y est. Et puis, l'apprentissage du regard s'est développé avec le regard de l'art. Mmh. Mais vous savez aussi, les études d'art que j'ai fait et aussi terminé, c'était aussi un hasard. Je voulais, en fait, j'ai décidé, quand j'étais très jeune, de commencer avec une vie d'écrivain. Et ça se passait avec un voyage initiatique. Et je revenais et je voyais que j'avais pas encore les moyens pour écrire et surtout pas la matière. Et j'ai pensé, il fallait que j'apprends un peu plus sur l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça. Et puis j'ai pensé, l'histoire, à l'époque, quand j'étais jeune, l'histoire était une matière ou discipline encore plutôt sèche. Et j'ai pensé, bon, je vais quand même choisir l'histoire de l'art. Et une fois, j'ai découvert que l'art le regard de l'art était extrêmement important pour moi, et j'avais un don. Ça m'était tellement familier, et surtout, bien sûr, après, c'est la même aussi une affaire de génération. Mmh. Parce que c'est l'art moderne à l'époque, c'était ma génération.
Oui, tout à fait.
Et je comprenais ça de mon intérieur directement, tout ce qui se passait. Mmh. Oui. Mais après, dans la politique de mon œuvre, j'ai toujours pensé, oui, ça c'est quelque chose à part. Bon, c'était une erreur. Et il fallait un jeune homme qui n'avait même pas 30 ans pour me dire, non, pas du tout, c'est le même niveau comme l'écriture de prose.
Bien sûr. Est-ce que pour écrire, Paul Nizon, il ne faut pas avoir un certain regard, justement? Parce que dans votre écriture.
Ah oui.
On sent ça. Il y a la vie, il y a l'écrit. Il y a le regard oui. De l'écrivain.
Oui, le regard, vous pouvez aussi dire la curiosité,
oui.
C'est-à-dire un emmagasinement de tout ce qui se passe. Un écrivain se nourrit de tout, en fait. Il n'est jamais fermé, il n'est jamais isolé, il est toujours exposé à la vie. C'est-à-dire s'il cherche la vie, comme moi. Pour moi, c'est dans le centre de ma recherche, c'est vraiment la recherche de la vie, de la vraie vie, ou de rendre les choses vivantes.
Mmh.
Bon, mais alors je me vois quand je repense à ma carrière ou à ma vie, je me vois toujours enfermé quelque part dans un atelier minable. Au-delà de l'esthéticisme, au-delà du confort, et juste pour le travail, le plaisir était de traverser pour aller, rejoindre mon atelier, la ville toujours d'une autre direction. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai tellement eu d'ateliers, alors j'étais aussi obligé de traverser de nouveau sans cesse la ville que j'aimais beaucoup.
Et la ville est au centre. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, vous écrivez que vos livres découlent de la ville.
Vos livres sont liés à la ville, à l'urbanité.
Absolument. Et maintenant, où je suis vraiment archivieux, je découvre en moi même un dégoût de la nature, hein. C'est la civilisation où le besoin de la ville et de trottoirs et de la pierre est tellement important et intense en moi que quand on me met quelque part dans le pays des vaches, je tombe dans un trou noir.
Alors c'est à Rome, dites-vous, que s'opéra la transformation définitive et que vous êtes devenu écrivain. Alors Rome, c'est une ville musée, c'est une ville où il y a beaucoup de choses à voir. Quel souvenir gardez-vous de ce passage à Rome?
Écoutez, je parlais déjà l'italien, que j'avais appris dans la rue. Parce que là où j'ai grandi, à Berne en Suisse, C'était un quartier qui était il y avait une grande population italienne, des ouvriers. Et on a grandi comme enfants avec des enfants italiens. Alors, et à côté de notre maison, ou de notre appartement, mais c'était deux appartements en tout, c'était 16 pièces, alors immenses. À côté, il y avait la Casa d'Italia. Mm-hmm. C'était une sorte d'ambassade de l'italienne. Et il y avait une école, il y avait un cinéma, il y avait un restaurant. Vous voyez, une sorte de résidence. Et l'Italie était tellement proche, et tellement familier. Et quand j'étais tout petit, je me rappelle qu'on jouait à l'échec dans le bistrot, dans le italien, et dans l'oreille, la conversation. Dans langue italienne.
Oui. Donc c'était vous étiez en...
Oui, mais c'était pas ça. Mais je crois j'étais un petit peu en tant que descendant de la culture allemande. Mm-hmm. Parce que je dis pas allemand. Je suis loin d'allemand. Même j'étais marié une première fois avec une allemande. Mais moi je suis pas du tout. Et puis, pour ne pas parler de la vue sur l'Allemagne après la guerre, alors là, c'était l'horreur. Mmh. Bon, mais je crois que l'italophilie était quelque chose de très naturel pour moi, et c'était une chose familière. Mmh. Et aussi, vous savez, il y a cette tradition de voyage en Italie, de Goethe et de tous les écrivains allemands. Alors peut-être il y avait aussi ça qui jouait un petit peu rôle dans la sous-conscience avec ce choix de commencer, parce que c'était mon voyage initiatique. Mmh. J'avais mon bac, mmh. Je refusais tout, l'école, l'université, et je voulais commencer une vie écrivain. Mmh. Je commençais cette vie avec un voyage initiatique à travers l'Italie, en Sicile, en Calabre, ici, Calabrie et Sicile. Et j'ai été volé très vite, pas vraiment démuni de tout, mais quand même un petit peu choqué. Et ah oui, et je pensais, j'étais déjà en Calabre, je pensais qu'il fallait, j'avais raté, tout était en rien, et j'avais une seule adresse en Italie. Oh. Un ami m'avait donné, il s'est dit, tiens, je donne une adresse, il ne faut pas aller sans préparation, et j'avais l'adresse, c'était l'adresse à Naples, d'une institution de la recherche de maritime. Mm-hmm. Et en revenant comme un soldat battu, j'allais là c'était des chercheurs internationaux qui mm-hmm. étaient là. Mm-hmm. Et le directeur m'a dit, bon, alors vous avez raté, vous voulez déjà rentrer, et vous pensez que d'avoir raté c'est une raison pour rentrer? Pas du tout, je vous offre un séjour dans ma maison sur l'île d'Ischia. Mais au moins, il faut que vous obligiez de rester 6 semaines, minimum. Et vous avez un couple de serviteurs, vous avez tout à votre... tout ce qu'il vous faut. Et comme ça, le voyage, qui était déjà une retraite, finissait glorieusement sur cette île. Et avec le temps, il y avait aussi des parents lointains de lui qui avaient perdu, qui arrivaient dans cette maison, dont une vieille dame qui disait, quand elle était jeune, il y avait Nietzsche qui passait chez eux régulièrement. Vous voyez ?
En effet.
Ah, oui.
Formidable. Donc vous étiez, et c'est là, vous vous dites que l'écriture est venue. Vous êtes, c'est une terre qui a vu.
C'était pas encore vraiment. Il y avait encore le problème de la matière, vraiment.
Oui.
Mais et je voyais, j'étais pas encore prêt pour vivre 100% cette vie d'écrivain. J'ai encore passé 2 ans, Et après, j'ai découvert que j'avais besoin de savoir et j'ai fait des études d'histoire de l'art.
Voilà.
Oui.
Donc, l'histoire de l'art, et c'est de là, vous avez même été assistant conservateur. Vous avez fait donc la thèse sur Van Gogh.
Mais ça, c'est, non. Ça, rien à faire l'un ou l'autre. Vous savez, ce premier travail après avoir fait les études, terminé les études, c'était normal. Un petit apprentissage sur un musée ou quelque part comme ça, c'était pas du tout un choix de. J'avais jamais envisagé ni une carrière de musée ni une carrière de. Non, j'étais obsédé de cette envie d'être écrivain et d'écrire les choses. Et bien sûr, j'avais, comme la plupart des écrivains, commencé très tôt. Dans l'adolescence, mais des choses, je ne sais même plus, des choses sans intérêt. Il y a des gens qui, jeunes, écrivent des pièces de théâtre, ou je ne sais pas. Moi, je n'appartiens pas à ce genre de... Je pense toujours, j'ai écrit quelque chose comme des chansons sans mots, de la mélodie, de lyrisme, des choses comme ça. Mais, et puis, de toute façon... Vous savez, la grande expérience de ma génération, c'était la perte. La réalité était plus visible. C'est pour ça l'art abstrait. Hein. Il fallait la trouver quelque part dans l'intérieur ou la profondeur de l'intérieur. Mais on ne pouvait plus copier la réalité. Elle n'existait plus. C'est pour ça tous ces détours dans l'abstraction... Et aussi ailleurs, ou dans le surréalisme, dans l'intérieur, dans les profondeurs, tout ça.
Et c'est pour ça que vous parlez d'ailleurs d'anthologie de l'art moderne. Votre regard, Paul Nizon, est né avec l'art moderne. Et avec la... D'ailleurs, l'écriture pour vous est une action. On sent toujours que c'est une action en prose. Oui. Et de même, l'action painting, le fait de peindre est une action. Et ça, vous avez été très intéressé par ça, par Pollock, par exemple.
Oui. Non, mais vous savez, pour moi, maintenant, dans d'ailleurs, ce livre-là, avec les ex, c'est pas moi qui ai choisi. C'est un jeune homme de 30 ans qui avait choisi ça. Et je me demande, c'était un boulot terrible de trouver tout ce que j'avais publié jusqu'à présent dans les journaux, de trouver ces choses et de les composer. Mais d'en faire un ensemble pour en sortir un livre.
On parlait de vous me parliez de vos débuts comme stagiaire dans un musée, mais c'était pas volontaire.
Ah non, pas du tout, jamais envisagé ça. Mais je sais même plus exactement, je connais plus la raison pourquoi j'ai commencé avec la critique d'art. De toute façon, quand je faisais des études encore à l'université, j'ai commencé avec la critique d'art pour un grand journal, Neue Zürcher Zeitung, qui correspond au monde, alors un journal d'importance internationale ou mondiale. Et là, j'ai commencé à écrire, mais en même temps, c'était en même temps la confrontation avec l'art moderne, c'était plutôt l'art moderne, qui me concernait intérieurement et intimement, parce que c'était ma génération. C'était le monde et la vision de ma génération. Et je comprenais tout ça par cœur tout de suite. Mais de l'autre côté, l'intérêt pour la langue, pour le style était déjà là et développé. Dans les journaux, on a tout de suite découvert un don chez moi. Et j'étais gâté. Alors, jeune homme, j'étais déjà critique d'art à la Zürcher Zeitung, et puis un peu plus tard, même chef de la...
Oui.
Pas longtemps. Après, j'ai tout de suite abandonné.
Oui, voilà, vous êtes resté.
J'avais jamais envisagé une carrière bourgeoise avec ce métier. Pas du tout.
Non, pas jamais, jamais. Vous n'avez pas été resté longtemps critique d'art en chef. Hein. Vous publiez en 63 Canto. Avant, votre premier livre, je crois, c'est Les Lieux Mouvants.
Oui. Hein.
Et c'est vrai qu'on sent chez vous l'importance d'être contemporain de ses contemporains. C'est très important pour vous.
Ouais. Oui, je suis un produit de cette génération, ou de ce petit nombre d'écrivains qui étaient en première ligne moderne. Mais pas dans ce sens décoratif. Et puis, je crois que le regard s'est développé avec la confrontation devant les œuvres d'art, dans les musées, dans les galeries, dans les musées et dans les ateliers. Parce que aussi la liaison avec les artistes peintres était beaucoup très vite plus intense que la liaison avec les écrivains.
Ah oui.
Bien sûr, je connaissais presque tous les écrivains vite faits de ma génération, comme Günter Grass ou comme tout le monde qui comptait. On se connaissait bien parce que là, à l'époque, il n'y avait pas encore tellement d'écrivains. Aujourd'hui, écrivain, c'est comme boulanger. Tout le monde est écrivain, tout le monde fait des noms. À l'époque, c'était quand même une sorte d'élite qui faisait ça. Et cette élite se rencontrait sans cesse. Et on se connaissait bien. On se connaissait un peu comme quand je vois une émission à la télé. Comme les acteurs se connaissant entre eux. On pourrait presque dire parler un petit peu d'une famille.
Une famille d'élection.
Oui.
Est-ce que, par exemple, les artistes... Alors, bon, Van Gogh a été très, très important pour vous. Hein.
Oui. Ça, c'était vraiment la chose... Je dis toujours, il y a deux choses qui étaient importantes au début. C'était Van Gogh, ça je vais vous dire pourquoi. Et deuxièmement, parce que c'était l'excès de la création. La création, pour moi, a joué toujours le plus grand rôle dans toutes les disciplines, pour moi, dans la hiérarchie des valeurs, la création, la créativité. Et deuxièmement, et ça c'était vraiment jusqu'à la folie, l'exemple de la création c'était Van Gogh. Et de l'autre côté, dans la littérature, c'était Robert Walser, qui avait, à l'époque, quand j'étais jeune, était de nouveau complètement oublié. Il n'existait plus. Il avait un certain... un début d'écrivain avant la Première Guerre mondiale, et après la guerre, et après la Deuxième Guerre, il était complètement... Il était plus d'actualité, il était oublié. Et vous savez ce qui est étrange chez lui, qu'il a été redécouvert presque 20 ans après sa mort. Ça, c'est très, très rare.
Et avec ses cahiers, je crois, son écriture, enfin, oui. il y a tout un... Robert Walser, tout un... Et Van Gogh, vous étudiez la forme artistique de son rapport, dans son rapport à la psychologie et à la vision du monde de l'artiste. Ce qui vous intéresse, c'est la pulsion de vie, Paul Nizon. C'est la pulsion créatrice.
Oui.
C'est l'urgence aussi. Comme par exemple, il y a de très beaux textes sur Staël. Staël, quand vous le découvrez, quand vous nous en parlez, vous dites c'est l'évidence du vivant. On est confronté à un monde...
Oui, c'était un de mes préférés, oui.
Staël, ça a été quand même... le livre commence par Goya.
Oui.
Le choix, c'est pas vous qui l'avez fait pour... comment ça s'est organisé ?
Après, le grand choix a été fait par ce jeune homme-là qui entre-temps, est aussi devenu écrivain et il est en train de faire son doctorat sur celui-ci, Carl Seelig. C'était le mentor de Walser et c'était une personnalité centrale de la littérature de l'engagement. Non, du monde.
Du monde. Ouais. Donc, les choix des artistes, parce que y a le livre est composé donc, de plusieurs chapitres. Alors, il y a les regards affamés, j'ai vu. Il y a... Regard, ça fait une bonne partie. Il y a les visites à l'atelier, non pas des visites d'atelier, les visites à l'atelier.
Oui.
Et puis après, il y a le
poste. Mais ça, c'était beaucoup plus tard.
Oui.
Ça, c'était des choses, vous savez, des vrais travaux, peut-être pour un catalogue ou pour un livre, et des choses comme ça. Tandis que la critique était le métier quotidien. Mais pour moi, c'était toujours un combat artistique... d'écrivain, de formuler, parce que il n'y avait pas encore un vocabulaire à l'époque, il n'y avait pas encore... c'était tellement nouveau, l'art de l'après-guerre.
Bien sûr.
Oui, abstrait.
Donc le fait de se confronter à l'abstraction, pour un écrivain, en devenir que vous étiez alors, c'était un défi de taille, c'était un défi littéraire. Mmh. On va faire une petite pause musicale. Nous sommes chez vous, où il y a des livres sur votre table. Il y a aussi des œuvres d'art, d'ailleurs, je vois derrière vous. Et vous parlez d'un écrivain qui vous tient à cœur, je crois, c'est Dürrenmatt. Parce que sur sa table, il y a autant de textes, enfin, l'art et la littérature sont à part égale chez lui. Et chez vous, on voit ça aussi,
non,
Paul Nizot.
Non,
non.
Tout ce, ça, c'est pas une collection. Ce sont des amis. C'est bien ceux qui ont joué un rôle dans
votre vie.
Et aussi en Suisse, et aussi un peu au-delà de la Suisse. Mais ce sont des preuves d'amitié. Je ne suis pas un collectionneur pour tout. Moi, j'ai un fils.
Oui.
Qui est collectionneur de maisons. Je crois qu'il y a 22 maisons.
Ah, dis donc.
Mais il ne les vend pas, il ne les loue même pas. Il est collectionneur. Vous savez, sauf que des objets sont immenses, là, ces objets de collection.
Oui. Et est-ce que, c'est vrai, vous avez écrit d'ailleurs au sujet de la Suisse, il y a un livre qui est très important pour vous, sur, je crois, un de vos premiers livres, sur l'étroitesse. À un moment donné, vous avez écrit un livre sur l'art en Suisse.
Ah oui, non, oui. Discours à l'étroit.
Voilà.
C'est un livre, c'est une confrontation avec la culture suisse dans les plusieurs domaines, aussi dans l'art bien sûr, et une confrontation très critique, extrêmement critique, et je crois qu'elle est unique en Suisse, dans la culture suisse. C'est un livre qui est encore un objet de discussion et aussi de négation et aussi d'applaudissement, tout ce que vous voulez. Un vieux livre. D'ailleurs, mes livres sont encore vivants. Et même dernièrement, Actes Sud a réédité mon roman L'année de l'amour en livre de poche pour la deuxième fois. Et le livre est sorti en 89. De le siècle passé, et maintenant, vous voyez, ça.
Oui, c'est...
Ça survit.
Ça survit, et d'ailleurs, vos textes de critique d'art, Paul Nizot, à la fin, il y a une traçabilité, il y a toute une histoire des textes. C'est vous qui avez eu cette idée de dire, ben, les textes ont été publiés là, après ils ont été republiés, peut-être remaniés, mais enfin, il y a toute une histoire, hein, de chaque critique à la fin de votre livre. Comme quoi, le texte, c'est comme de la matière.
C'est des grands travaux.
Voilà.
Mais c'est des grands travaux, par exemple. L'un ou l'autre était même un livre. C'était des commandes ou c'était des grands travaux pour des catalogues.
Voilà.
Ça, j'ai ramassé à la fin, parce que ça rentrait dans le sujet de l'activité. Mais oui, c'est parce que on l'a groupés ensemble parce que c'est une taille différente, beaucoup plus importante.
Alors, vous avez aussi vécu avec une femme peintre, Marianne Wilder.
Oui.
Est-ce que ça a changé votre regard sur la peinture, le fait de vivre avec une femme artiste?
Ça, je ne peux pas dire, bien sûr.
Enfin, au quotidien, partager le quotidien d'une artiste, d'une femme peintre.
Non. Il faut dire que j'étais tellement entouré d'artistes. J'étais vraiment... J'étais presque un snob. Je détestais tellement les bourgeois et j'aimais uniquement les artistes. Alors j'étais entouré d'artistes. À l'époque, quand j'étais jeune, c'est pas par hasard, c'est peut-être pas un hasard qu'on était ensemble. C'est une très belle femme, très douée d'ailleurs aussi, qui a trop beaucoup souffert à la fin de sa vie. Cancer de poumon, terriblement souffert, tout ça, triste. Mais oui, c'était dans beaucoup de domaines, on harmonisait très bien entre artistes. Il n'y avait pas de... Il n'y a aussi non plus de compétition, parce que entre écrivain et peintre, c'était une compétition. Oui. Elle était beaucoup, non, elle était pas beau, elle était peut-être 10 ans plus jeune que moi. Mais après, oui.
Oui. Est-ce que le...
À l'époque, elle était pop artiste.
Ouais.
Pop. Et puis après, elle a trouvé un chemin assez remarquable. Et oui. Comme vie quotidienne, c'était peut-être, parce que j'étais marié 3 fois, la vie en commun la plus simple pour moi, la plus...
Oui,
oui, c'est ça.
Vous travaillez comment, Paul Nison? Vous écrivez comment? Parce que votre temps d'écriture s'accordait sans doute. Elle avait son temps à elle pour la peinture. Et vous, vous avez votre temps pour l'écriture. Vous travaillez comment? La nuit, le jour
À l'époque, je travaillais la nuit. Vous savez, à l'époque, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, pour moi, maintenant. Là, tout le monde fumait. Mais comme vous voyez maintenant des films à la télévision, vous ne voyez pas de films, vous voyez que la fumée, parce que tout le monde était enfumé. Tout le monde buvait. Et comme des fous, on buvait à l'excès, il y avait beaucoup aussi des... Et puis surtout les artistes, c'était des buveurs et des fumeurs et des... Bon, il y a aussi des drogués, mais là, je n'ai jamais touché parce que j'avais une telle peur de la drogue, alors je n'ai jamais été drogué. Mais j'étais fumeur et aussi buveur terriblement.
Est-ce que le changement d'époque, comment vous voyez le changement pour le monde de l'art, le monde littéraire, ça a considérablement changé, j'imagine?
Premièrement, ces disciplines sont devenues tellement normales, des activités normales, tout le monde est... Et puis, je ne sais pas, c'est trop compliqué pour répondre dans deux lignes.
On a le temps, là. Ouais. Mais alors, en 68, hein, vous avez commencé à réfléchir sur la fonction muséale. D'ailleurs, vous avez réfléchi sur pas mal de choses, hein, sur comment on expose. Puis au moment de la Biennale de Venise...
Mais vous savez, l'année de 68, c'était le changement de tout, dans tous les coins de la vie, et puis aussi dans l'art, et puis c'était le refus de la commercialisation, le refus des musées, le refus... Je me rappelle, je crois que j'ai même écrit sur la Biennale de l'époque.
Vous avez soutenu une manif. Et vous avez vu le changement. Vous avez eu le changement entre maintenant... une sorte de commercialisation de l'œuvre d'art.
Oui. Et vous savez, aujourd'hui, c'est le produit le plus cher du monde, l'art, à partir d'un certain niveau. Il y a des gens, des collectionneurs, qui achètent et qui enferment dans un trésor. C'est même pas sur un mur, c'est même pas pour regarder. C'est juste comme valeur...
Ouais.
Mais pas valeur pécuniaire, oui.
Oui, oui. Ouais. C'est plus comme la présence. Voilà.
Et bien sûr, des sommes inouïes. Ouais. Et moi, j'avais toujours un petit peu, parce que j'avais beaucoup d'amitié parmi les artistes. Et quand j'étais dans une galerie d'art avec eux, j'étais toujours choqué par le rapport intime entre les artistes et les bourgeois, parce que les bourgeois c'était les acheteurs, alors il fallait être poli, il fallait bien se présenter, et moi j'étais ni artiste là entre eux ni acheteur, et je détestais ces gens, cette classe. Bon, c'était exagéré, c'était aussi une exagération un peu de la jeunesse, hein. Je suis encore assez anti-bourgeois, ce qui gêne mes enfants, parfois.
Pour écrire, Paul Nison, il faut être asocial, antisocial, bohème, l'esprit bohème, on parlait de l'esprit bohème.
Non, mais vous savez, par exemple, je vois mes enfants sont beaucoup plus riches que moi, tous les enfants. Et ce ne sont pas des gens d'affaires, mais... Mais moi, j'ai refusé, j'aurais vite pu être directeur de musée ou quelque chose de ce genre. Mais je ne voulais pas rentrer dans une carrière, je ne voulais pas être employé, parce qu'employé pour moi voulait dire perdre la liberté de l'expression. Et vous pouvez aussi le choix des sujets. Comment voulez-vous... Par exemple, en tant que critique, écrire sur les putains ou sur vos expériences sexuelles ou quelque chose, ça ne va pas. Alors, je voulais pas être muselé. Je crois que c'est pour ça que je suis devenu ou resté dans un état d'indépendance et plutôt pauvre.
Refus de l'aliénation, quelle qu'elle soit.
Oui.
Aliénation de l'argent, aliénation intellectuelle, refus des écoles aussi.
Ben.
Refus des écoles.
Oui.
Alors, pour les rencontres avec les peintres, quel est le plus beau souvenir pour vous? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, hein, on voit, il y a les artistes qui vous ont la plus belle... Il y en a eu beaucoup, de belles visites d'ateliers, mais quel est l'artiste qui vous... Contemporain, hein, je parle, qui vous a impressionné quand vous l'avez rencontré de visu, Paul Nizon?
J'ai quand même rencontré une grande partie des gens qui étaient célèbres à l'époque.
Oui, oui.
Ça, c'est sûr, mais j'avais aussi des artistes qui étaient des amis proches, mais vous les connaissez peut-être pas quand je les... C'était... Oui, un ou deux sont là-dedans.
Vous parlez, par exemple, d'Alberto Burri, vous parlez...
Oui. Non, mais ça, c'est quelques Italiens que j'ai bien connus, mais c'était pas des grands amis à moi. Mm-hmm. Alberto Burri. Mm.
C'est important ce que vous dites d'ailleurs sur Alberto.
Parmi les Italiens qui a joué un grand rôle, c'était Leoncillo Leonardi. Mm-hmm. C'était un sculpteur abstrait, passionné. Avec lui, j'avais vraiment une différence d'âge, mais une grande amitié. Mais j'ai connu bien sûr beaucoup d'artistes italiens à l'époque, mais
Soulages, vous l'avez rencontré forcément.
Oui.
On en a parlé puisqu'il vient de disparaître. Alors pour revenir alors à votre Van Gogh, ça c'est très important pour vous, Paul Nizon. Et c'est surtout que vous dites, au commencement, il est à l'impossibilité pure et simple, désespoir de se réaliser dans le destin à cause d'une inhabilité manifeste, frisant l'inintelligence et doublée d'une impossibilité de vivre. Donc Van Gogh, au départ, c'est une incapacité et c'est un combat. C'est un combat et c'est aussi un dépassement de soi pour comprendre le monde. Enfin, moi, j'ai compris ça en vous lisant, hein, Paul Nizon.
Vous savez, on avait une fausse image de Van Gogh. On pensait que c'est un fou, presque un... C'était un homme extrêmement cultivé, qui parlait et qui connaissait plusieurs langues. Il pouvait lire le latin, le grec, il parlait couramment l'anglais. Vous savez, les Français ne sont pas tellement pour les anglais étrangers. C'était un type extrêmement cultivé, mais dans le comportement, je pense, insupportable. J'imagine vraiment ce qui est... Souvent, c'est un fils de pasteur. Et moi, en premier mariage, j'étais marié à un fils de pasteur. Et je connais... À travers cette famille, j'ai connu... un nombre immense de familles de pasteurs. Et ça, c'est vraiment une race spéciale. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, c'était un type qui était... qui était un ennemi de l'Église, mais il vénérait le personnage de Jésus-Christ. Un croyant de Jésus-Christ et un ennemi de l'Église. Alors, en ce sens, il n'était pas vraiment un chrétien comme il fallait être, comme la...
En tous les cas, sa démarche, vous en parlez...
Et vous savez, il est mort très jeune. Il avait 37 ans.
Oui.
Dont 2 ou 3 ans dans les asiles psychiatriques. Une vie... Et il avait commencé très tard dans sa vie, parce qu'il avait essayé beaucoup de choses avant, et rien ne marchait pour lui. Je crois qu'il était invivable.
Vous aimez bien les invivables, Paul Nizon.
Oui.
Voilà une phrase de Van Gogh que vous citez. Un tas de gens ne copient pas, un tas d'autres copient. Moi, je me suis mis par hasard, je m'y suis mis par hasard et je trouve que cela s'apprend et surtout parfois console. Aussi, alors mon pinceau va entre mes doigts comme serait un archer sur le violon et absolument pour mon plaisir. Donc, on voit dans vos textes le devenir de Vincent Van Gogh, son combat et là où il devient... intéressant, c'est-à-dire, vous dites, il y déployait sa passion de l'immuable, sa passion de l'immuable a révolutionné l'art à défaut de la vie. Mmh. Ça, c'est une très belle phrase.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a... Van Gogh, c'est cette pulsion créatrice, c'est ce côté invivable?
Je peux seulement me répéter. Pour moi, c'était le comble de la créativité. Mmh. La maladie de la créativité, hein. Et moi, bien sûr, j'étais encore nu, j'avais à peine commencé avec quelque chose, et cette confrontation avec cet extrémiste m'a pas seulement choqué, m'a vraiment influencé, mais jusqu'au tremblement. C'était vraiment une influence, c'était peut-être là, pour ma carrière d'écrivain, la plus grande influence qui soit. Après, bien sûr, après, il y avait beaucoup de gens aussi en France, comme Perec, par exemple, des gens qui m'intéressaient. Et beaucoup. Mais ce choc, quand au début de ma vie, était vraiment incomparable, Van Gogh.
Ouais. Aussi, alors il y a Turner aussi, vous le décrivez. Alors lui, c'était un fou, un artiste maniaque. Excepté ses tableaux, il ne semblait avoir aimé rien ni personne. Et vous dites qu'il appartient à la famille des peintres visionnaires, Paul Nizon. Mais c'est vrai que vous montrez tous ses défauts, et c'est ça qui est bien aussi. C'est-à-dire un artiste, c'est pas quelqu'un. C'est une personnalité, un tempérament.
Oui, c'était. En général, ce sont des personnalités maladroites dans la société, mais. Ça veut pas dire... Oui, on les considère pratiquement comme les malades, comparé à la norme de la vie bourgeoise. C'est des gens qui font vraiment de la folie. Je crois la productivité, par exemple, ici, vous connaissez Peter Handke, qui a eu le même prix Nobel, c'est aussi... on peut dire on est amis, on se connaît depuis très 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 longtemps. Il a aussi une productivité immense, je crois qu'il a peut-être publié 100 livres. C'est un livre, une productivité qui s'arrête jamais. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, j'aime bien écrire sans cesse, comme mes journaux le prouvent.
Oui, oui.
Et les prouveaux sont des extraits. Il y avait peut-être 6 fois plus que notes qu'on avait choisi et publié. J'aurais déjà jamais. Mon problème était un peu le choix de la matière. C'est pour ça que je retrans cette. Je fouille quand même en grande partie dans mon propre intérieur. Vous savez, bien sûr, tous les écrivains écrivent plus ou moins cachés leur vie. Ça, c'est, je veux dire, le fait d'être autobiographique n'est pas une spécialité. Chaque écrivain ou chaque artiste est autobiographique, selon le degré. Mais... chez moi, au début, l'autobiographisme était vraiment l'unique salut parce que je ne trouvais pas de matière sur quoi. J'aurais été comme... Par exemple, j'aimais beaucoup écrire les journaux. Mm-hmm. Pratiquement sans sujet. Bien sûr, c'est jamais sans sujet parce que le sujet, c'est le monde dans lequel je suis enfermé. Mais sans contrôle. La liberté totale, laisser couler, et puis après, faire le choix après. Mais d'abord, pour moi, c'est la, l'activité de l'écriture.
Ça, la matière de l'écriture.
Oui, la matière est aussi l'activité.
Et le sens, vous parlez à un moment donné, dans d'autres livres, de l'importance de la musique, du rythme.
Oui, oui, le rythme est très, très fort. Oui, oui. Oui.
Le jazz. Pérec, vous l'avez rencontré, Georges Pérec?
Non, je n'ai pas rencontré, non.
Et en quoi vous a-t-il intéressé? C'est le sens du lieu, de la créativité, de... Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'œuvre de Georges Pérec, par exemple?
Je ne peux plus le dire. Je cherchais un exemple, un nom, mais c'était un des rares, vraiment, qui m'a beaucoup intéressé de mes contemporains français.
Le nouveau roman, ça vous a intéressé?
Pas du tout. Le bon roman, non.
Non. Alors, pour revenir à l'art, il y a beaucoup d'artistes. On va pas parler de tous les artistes dont vous avez. C'est impossible. Alors, Matisse, c'est très intéressant, puisque vous le comparez à un metteur en scène et vous rappelez qu'il dessine avec des ciseaux. Il a donc traité, dites-vous, la couleur comme un massif, comme une masse. Et ça m'a rappelé aussi votre travail d'écrivain et d'écriture. Vous dites encore, il est parvenu à une coordination du problème de la couleur et de celui de la ligne. Donc là, on pense aussi la couleur des mots, la ligne d'une phrase.
Paul Nizon, nous allons donc vous écouter lire un extrait de votre livre, ce qui donnera à nos auditeurs eh bien, l'arôme de votre écriture. Allez-y, Paul Nizon.
Qui est Goya ? Il existe quantité de manières possibles d'approcher cette question. Il est un peintre de cour et un portraitiste. Un artiste travaillant sur commande et un grand entrepreneur qui a connu la gloire et la fortune. Il est un peintre populaire qui a peint le petit peuple des rues et des troquets, les putains et les marchands et les meurtriers, tout autant que les belles jeunes femmes et les enfants, les simples gens, comme on dit, au quotidien et à l'occasion des fêtes. Lui-même est un homme qui a vécu pleinement et avant tout un fervent admirateur du beau sexe. Il est aussi un peintre du nu féminin, ce qui est rare dans la tradition espagnole, un peintre galant et un éroticien. Il est aussi une sorte de reporter de guerre, un témoin incorruptible des désastres de la guerra. Il est le peintre de la corrida et, en tant que tel, extrêmement populaire. Goya le taureau, dit-on dans la rue à son sujet. Il a été sa vie durant un fervent amoureux de la corrida, ce culte à mystère ultra-hispanique. Il est surtout dans ses caprices, caprichos, ses gravures à l'eau forte et ensuite dans les dites peintures noires, un exploiteur et un sondeur des abîmes humains. Ce cabinet des horreurs du fort intérieur, aujourd'hui, nous dirions, cette matière première mentale que les psychologues et les psychiatres ont tirée à la lumière de la conscience. À cet égard, il fait partie de la famille d'un Hieronymus Bosch. Je saute un petit peu. Goya a connu les guerres napoléoniennes, la désignation de Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, comme roi d'Espagne. Il a vécu le soulèvement du peuple de Madrid et l'écrasement de ce soulèvement, les exécutions, les massacres. Il les a fait entrer dans les tableaux des 2 ou 3 mai 1808. Il a connu l'époque où, l'Espagne étant un théâtre de combat, les troupes françaises, les troupes espagnoles insurgées et les troupes anglaises se trucidaient. Il a vécu la désignation au trône de Ferdinand VII, puis un bref intermède d'histoire au cours duquel l'Espagne devint une monarchie constitutionnelle, pourvue d'une constitution libérale. Et il a vécu la rechute dans un régime de terreur despotique et les omniprésents spires de l'Inquisition. Il a connu la persécution, il a dû prendre la fuite et enfin il a vécu l'exil. Il est resté peintre du cours le plus longtemps. Il pouvait s'accommoder avec le pouvoir et pourtant sa personnalité entière est entrée dans son art et avant tout son positionnement spirituel et humain, sa résistance. Il fut une victime de son temps, un témoin et un juge incorruptible, comme en témoigne son art du portrait.
Merci Paul Nizon. Et est-ce que justement cette lecture, quand vous êtes en librairie, vous aimez la rencontre avec vos lecteurs, Paul Nizon ?
Avec qui ?
Vos lecteurs.
Ah oui ! Oui, oui, mais encore, je reçois de, oui, je reçois des visites, je reçois des courriers, des gens, oui, oui, oui.
Ça vous aimez, c'est ce lien-là.
Oui, oui, oui.
Et y compris de lire vos textes aussi à voix haute, là, vous le lisez très bien, vous revivez votre écriture.
Oui. Je vous ai déjà dit, je crois, les lectures publiques, j'aime bien les faire, oui. Et bien sûr qu'il va avec le contact avec les gens. Oui. Mmh.
Paul Nizon, nous sommes toujours en train de discuter, à la fois autour du regard, Le regard ramassé, donc c'est une anthologie de l'art moderne, traduit de l'allemand par Frédéric Joly, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. C'est un livre où il y a beaucoup de matière, hein, beaucoup de matière sur l'art, tous vos regards, toutes vos critiques d'art. Mais en même temps, on sent que c'est là où vous êtes construit, dans le silence de l'atelier. Ce mot atelier, d'ailleurs, a plusieurs significations pour vous.
Comment, encore une fois?
Le mot atelier a plusieurs significations pour vous.
Oui, l'atelier, alors, j'aimais beaucoup comme en dehors de séjour, les ateliers des artistes, hein, j'étais souvent, parce que c'est tellement différent de l'atelier, du lieu de travail de l'écrivain. L'écrivain, c'est enfermé dans le néant, séparé de tout, tandis que les ateliers d'artistes sont ouverts, il y a beaucoup de gens qui passent, on mange, on boit, on fait. C'est un endroit intime et public en même temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un atelier, et surtout c'est beaucoup plus physique.
Oui,
ça,
voilà,
c'est
voilà.
La différence. Hein.
Et c'est ça, parce que ce qui manque.
Et puis aussi, c'est-à-dire, le savoir, la culture des artistes est souvent une culture autobiographique, faite par elles-mêmes. Ce ne sont pas des gens qui ont appris le monde dans une académie. C'est des gens qui ont une vision du monde très individuelle.
Mmh. Et qui ont bataillé, parce qu'Alberto Burri, par exemple, a été chirurgien. Il a eu une vie avant la peinture.
Oui. Donc, oui. Vous savez comment ça se voit dans sa peinture, son passé de médecin?
La couture.
Non. La couture.
Ben oui, c'est ce que je viens de vous dire, la couture.
Couture, oui.
La couture,
oui.
Le fil, la couture, oui. La réparation.
Oui,
et le tissu,
c'est vrai.
L'arte povera, c'est-à-dire on ramasse des... D'ailleurs, votre travail d'écrivain aussi, c'est de ramasser justement ce terme, de ramasser des bouts de vie, de les assembler. Quand vous écrivez vos journaux, puisque tout est lié chez vous, Paul Nizon, est-ce que vous, une fois que vous avez écrit un texte, ça rejoint une masse, et après vous retravaillez, vous...
Pas du tout.
Pas du tout.
Je
ne travaille
pratiquement jamais, je coupe.
Voilà, vous coupez.
Oui, mais jamais, non. Et je me laisse transporter par l'écriture. C'est pas, je suis pas là et je jette un coup d'œil critique sur la matière, pas du tout. Je me laisse, je suis comme un drogué. Quand j'écris, ça écrit en moi-même. Et c'est, les meilleures parties sont... Je les ai produites comme ça, presque dans une sorte d'absence. Ou médiatique, ou quelque chose comme ça.
Écriture automatique ? On peut en parler ?
Ça va dans cette direction, mais c'est un peu exagéré. Oui, mais il y a des passages qui ont été écrits pratiquement automatiquement, et sans contrôle intellectuel.
J'ai lu d'ailleurs dans certains de vos textes, en dehors de ce livre, le rêve, l'écriture du rêve, le semi-sommeil, les apparitions récurrentes aussi. Un rôle à jouer chez vous, Paul Nizon.
Dubuffet était, par exemple, c'était un modèle pour ma femme ma femme peintre de l'époque.
Ouais.
Dubuffet.
Ouais.
Oui.
Vous dites, ici passe quelque chose. Ce sont des tableaux à déchiffrer que le regardeur ne saurait épuiser. Et là, d'ailleurs, vous dites après, vous concluez, l'heure est propice à un art du divertissement, de la sorte. Le pop art a préparé le terrain à cela. Donc, ce qui vous plaît aussi chez, c'est toujours cet art du matériau. Miro, voilà ce que vous écrivez au sujet de Miro. Aux côtés de Klee, Miro est probablement le seul artiste qui excelle à traduire en images de pensée l'être humain sur la base de ses pressentiments, de ses expériences et de ses souvenirs les plus profonds. Il a procédé à un véritable travail d'exhumation. Donc là, on rejoint le travail d'exhumation que vous venez dire sur l'écriture, Paul Nizon. Miro, c'est un peu l'enfance de l'art, c'est aussi... Voilà,
il y a aussi le côté clown chez Miro.
Oui,
hein.
Oui. Poète.
Oui, mais ça c'est assez proche pour clown et poète, oui. Mmh.
Chagall aussi, vous en parlez très bien, Chagall. Hein, et vous aimez beaucoup d'ailleurs son... Alors voilà ce que vous dites de Chagall. Ce
qui rejoint, voilà. Il s'est extrait du jeu hermétique d'une réserve, d'une chambrette. Il est venu d'un monde très particulier et fermé, donnant le sentiment d'être tout simplement irréel, d'un monde qui prospérait, pour ainsi dire, toujours à la lueur des bougies. Et vous parlez de ce coloris surnaturel de l'œuvre de Chagall, qui vous a...
Que vous citez. J'ai beaucoup aimé le jeune Chagall, tandis que le grand Chagall connu touche souvent au kitsch, selon moi. Un petit peu.
L'institutionnel ne vous... Oui. Le Chagall institutionnel. Est-ce que votre regard, Paul Nison, sur ces artistes a forcément évolué? Est-ce que vos admirations de jeunesse ne sont plus vos admirations de l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Mais vous savez, maintenant je suis un vieil homme. Je sors pratiquement jamais, je sors seulement accompagné. Je ne vais pas dans les expositions, je ne vais pas dans les musées, parce que je ne tiens pas debout longtemps. Alors, tout ça, le contact avec la production, la productivité artistique d'aujourd'hui, je ne l'ai plus. Mais de l'autre côté, avant, c'était une grande partie du passe-temps de ma vie était... le frôlement avec tout ce qui se passe dans le monde des arts. Aujourd'hui, je suis coupé de tout ça. Ça, c'est un peu c'est quelque chose qui me manque. De l'autre côté, il faut dire que mon musée intérieur est quand même tellement rempli. Et puis, il faut dire, vous, en tant que critique ou en tant qu'observateur de l'art, vous pouvez pas, vous êtes limité. Peut-être vous pouvez, l'art moderne, vous pouvez accompagner un ou deux ou trois mouvements de la modernité, et après ça s'arrête. Après, vous appartenez plus à ce monde d'art, vous comprenez plus leurs problèmes et leurs défis. On est quand même, dans le temps, on est quand même limité.
C'est important pour vous, finalement, d'en avoir parlé quand c'était un art vivant et que vous-même, vous étiez en pleine jeunesse. Aussi, c'était un art jeune et vous étiez aussi, voilà, vous faisiez partie de cette génération de créateurs. Donc, votre définition de l'art moderne, Paul Nison, est-ce que vous avez une définition de l'art moderne?
Non, je ne sais pas interpréter. Vous savez, le premier choc, pas seulement de moi, de tout le monde dans l'art, était que la réalité n'existait plus. On ne pouvait plus la peindre. On ne pouvait plus se planter devant la réalité comme dans les bons temps. Elle n'existait plus. Elle était quelque part dans l'intérieur ou dans la folie. Il fallait trouver et comme ça, avec l'art abstraite, la visualité du monde s'est évaporé et n'existait plus. Et après, quand on commençait à s'approcher de nouveau de quelque chose qui ressemblait à la réalité, c'était en suivant les traces de la réclame. Alors, c'était de la vulgarisation de la réalité comme la réclame nous a montré. C'était une des sources du pop-artisme, c'était la réclame.
On vous sent aussi assez méfiant par rapport à l'art conceptuel. Le concept, c'est pas tellement votre truc.
Non, le concept, et puis la part intellectuelle dans l'art n'est pas ma préférence.
Donc c'est toujours le matériau, la matière. D'ailleurs, j'ai vu vous avez aussi un sens des objets. J'ai vu dans un film, vous parlez d'une clé anglaise qui vous a jamais... Vous aimez le sens des objets. Il y a très peu, finalement. Il y a des sculpteurs, mais il n'y a pas beaucoup de sculpteurs, finalement, dans cet ouvrage.
Ah oui?
Il y a Giacometti, Mayol. Giacometti, vous l'avez rencontré
ou... Oui.
Ça doit être une rencontre
Il avait une très belle tête et il était tout petit, il avait des jambes très courtes. Et bon.
Contrairement à ces personnages filiformes.
Oui, c'est vrai.
Un peu comme ça, l'homme debout, l'homme qui marche. Vous avez été le voir dans son atelier à Montparnasse, là on est à Montparnasse, on ne va pas dire exactement où, mais ce quartier de Montparnasse, vous l'aimez, Paul Nison ?
Je ne l'aime pas du tout. C'est un quartier, c'est le temps de Montparnasse c'était les années 30, entre les deux guerres. Et aujourd'hui c'est un quartier archi-bourgeois et un peu ennuyeux, je trouve. Bon, il y a encore des grands cafés là.
Oui, vous êtes quand même, voilà.
Mais c'est plus la même chose parce que la clientèle a tellement changé. Quand j'étais la première fois, j'avais toujours eu une tante, même deux tantes à Paris. Alors j'étais souvent, quand j'étais encore élève, j'étais déjà à Paris. Et je me rappelle une fois dans un café, j'ai vu qui Picasso avec ses amis, qui m'a vraiment impressionné beaucoup parce que c'était quelqu'un qui était déjà en même temps au musée et de l'autre côté encore. Non, c'était un immense symbole de l'art moderne.
Bah oui, oui. Oui, Picasso, ça c'est un immense un peintre et un créateur. C'est aussi votre livre, c'est une réflexion constante sur la création quelle qu'elle soit, par les mots, par l'écriture, par la peinture, par la couleur. Et la création va avec une part de destruction aussi. Il faut aussi faire table rase à un moment donné. Et ça, on trouve ça très très présent dans votre ouvrage, Paul Nison. Est-ce que vous avez dû relire tous ces textes ? Vous les aimez ? Vous n'aimez pas, hein ?
Non, peut-être quand c'est sorti, j'ai lu dedans, mais...
Oui.
Non.
Pas de...
Non. Je crois que j'ai jamais relu un livre que j'ai fait, jamais.
Même pas les...
Quand je fais une lecture publique, bien sûr, je lis des passages que je choisis, plus ou moins par hasard, et j'aime bien présenter ma chose en jouant l'acteur qui lit. Mais pour moi-même, une fois écrit, c'est... Le chapitre est fermé.
Bon. Vous avez des projets d'écriture en ce moment ? Vous écrivez sur quoi en ce
moment ?
Non,
j'ai un projet. Je voudrais écrire... Une fois, j'ai écrit sur mes ateliers, parce que j'ai tellement utilisé. J'aimerais encore écrire sur mes villes, parce que j'ai vécu dans beaucoup de villes. Mes villes et l'autre... Un autre sujet, les gens, les mentors, les gens qui m'ont... Guider.
Ça, c'est important.
Et influencer. Et là, il y a aussi un certain nombre de gens, c'est un témoignage. Des choses comme ça. Mais vous savez, à mon âge...
C'est important pour vous de passer le relais, de quand on écrit un journal, c'est quand même un acte de témoignage aussi, ou d'insurrection, mais c'est l'instant présent. Mais c'est important aussi d'être le témoin d'une époque et de...
Oui,
et de passer
le quotidien et tout ce qui aussi explose dans l'intérieur du vivant, une époque.
Paul Nison, nous sommes toujours dans votre atelier d'écriture. Vous êtes un grand lecteur, là. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Quelles sont vos lectures ?
J'ai redécouvert un très grand écrivain que je connais un petit peu, qui s'appelle Péter Nádas. C'est un Hongrois,
oui.
À peu près de mon âge, un peu plus jeune, mais pas beaucoup. D'un niveau fantastique pour moi, mais c'est en même temps divertissant, profond, polémique, épocal. C'est tout ce que vous... C'est des livres... De 2000 pages.
On le fait.
Il faut vraiment se concentrer et se plonger dedans. On peut le déguiser seulement en petites parties. Ça, c'était une très grande redécouverte de mon âge aujourd'hui. Et Ah, je ne peux pas vous dire.
Oui, votre bibliothèque, elle, d'ailleurs, les livres chez vous.
Et j'ai une grande partie de mes livres dans la cave.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de la place. Vous
ouais.
Oui,
oui. Et vous m'avez pas répondu vraiment à cette question. C'est vous écrivez à la main sur l'ordinateur.
Machine, vieille machine.
Je m'en doute. Hein.
Non.
C'est important le bruit de la machine à écrire.
Oui, oui. On m'avait aussi comparé un peu
avec le jazz, le piano.
Non. Avec la musique, bien sûr.
Ouais.
Parce que, oui, bien sûr. Là.
Par exemple,
dans ma famille, tout le monde jouait un instrument. Moi aussi, j'ai commencé avec le violon, avec le piano, mais ça n'allait pas plus loin. Ma sœur est pianiste. Mais l'art figuratif jouait aucun rôle dans ma famille. Ça, c'était une découverte. Quand j'étais jeune.
Mais c'est rare, parce que c'est rare. Ouais. Généralement, les familles, c'est l'art figuratif.
Mmh.
Donc vous avez une famille très moderne.
Non, j'avais une drôle de famille, hein, vous imaginez. Hein.
Bon. Donc la percussion, voilà, c'est ce sens du rythme, Paul Nizon, qui vous. Quand vous écrivez.
Oui, au début.
Au début.
Au début. Venant d'une famille bourrée de musique, je faisais de la musique en tapant sur la machine, et pas la pensée. Hein. Et de toute façon, je me méfiais toujours un petit peu de la pensée. Et je préférais de me plonger dans, je ne veux pas dire dans le désastre, mais dans l'explosion.
Vous avez un côté révolutionnaire, Paul Nizon, rebelle.
Oui. Non, je ne peux pas vous répondre parce que quand je me vois aujourd'hui, je me vois comme une ruine totale, loin de tout ça. Mais peut-être comme caractère, oui. Comme caractère, j'étais plutôt
un homme d'avant-garde, quand même. Vous aimez ce qui. Même les artistes qu'on a évoqués, c'est des aventuriers de l'art. C'est pas des classiques, c'est des gens qui vont à l'aventure.
Bon. Ah oui, que vous voulez, oui.
Hein, merci à vous, Paul Nizon.
Je vous remercie de votre visite et de votre patience et de votre tolérance.
Écoutez, tolérance. Merci. Et moi, je vous remercie pour la belle lecture que vous donnez au lecteur. Merci à vous, Paul Nizon.
Thank you. et sournoise. On vit à l'ombre de vos dix doigts, malicieux et sournois. Sir Lady et autres princesses, étroitement surveillées, délicatesse. L'inventaire, l'avant-garde, à coups de lance-pierre, sa canarde. Vrai combat, vrai héros, qui est en bas, qui est en haut. Ça invite, ça parade, ça déguise la belle histoire. On vit une époque formidable, malicieuse et sournoise. On vit à l'ombre de vos dix doigts, malicieux et sournois. Respirez libre le grand air, le vent souffle, taquine la mer, le soleil, les vagues, l'horizon. Toi, mon vieux copain, t'avais raison. On vit une époque formidable, malicieuse et sournoise. On vit à l'ombre de vos dix doigts, malicieux et sournois. Tu prends ta robe blanche, élégance du dimanche, le balai des larmes sur ta joue, coule, coule, déteint sur nous. Tu repousses la frange, je remonte la manche, déposer le doute sur ta joue, le goûter, savez-vous. On vit une époque formidable, malicieuse et sournoise. On vit à l'ombre de vos dix doigts, malicieux et sournois. On vit une époque formidable. On vit une époque formidable. On vit une époque formidable.
At a time when the world seems to be spinning hopelessly out of control,
there's deceivers
and believers and all in-betweeners that seem to have no place to go. It's the same old song.
It's right and it's wrong. And then it's just something that I do. And with no place to hide,
I look in your eyes and I found myself in you.
I look to the stars, turn on all of the bars,
and I'm nearly gone up in smoke.
Now yeah, my hands
on the wheel
of something that's real,
and I feel like I'm going home. Neath the shade of an oak, down by the river, sat an old man in the water. Setting sails,
spinning tails,
and fishing for whales
with a lady that they both enjoy.
Well, it's the same old tune. It's the man in the moon.
It's the way
that I feel about you. And with no place to hide, I looked in your eyes, and I found myself.
Bonheur, toi, le fatal emblème. Salut de la démence et libation blême. Ne crois pas qu'au magique espoir du corridor j'offre ma coupe vide où souffre un monstre d'or. Ton apparition ne va pas me suffire, car je t'ai mis moi-même en un lieu de porphyre. Le rite est pour les mains d'éteindre le flambeau contre le fer épais des portes du tombeau. Et l'on ignore mal, élu pour notre fête, très simple, de chanter l'absence du poète, que ce beau monument l'enferme tout entier. Si ce n'est que la gloire ardente du métier, jusqu'à l'heure commune et vile de la cendre, par le carreau qu'allume un soir fier d'y descendre, retourne vers les feux du pur soleil mortel. Magnifique, total et solitaire, tel tremble de s'exhaler le faux orgueil des hommes. Cette foule hagarde. Elle annonce, nous sommes la triste opacité de nos spectres futurs. Mais le blason des deuils épars sur de vains murs, j'ai méprisé l'horreur lucide d'une larme, quand, sourd même à mon vers sacré qui ne l'alarme, quelqu'un de ces passants, fier, aveugle et muet, hôte de son linceul vague, se transmuait en le vierge héros de l'attente posthume. Vaste gouffre apporté dans l'amas de la brume par l'irascible vent des mots qu'il n'a pas dit. Le néant à cet homme aboli de jadis, souvenir d'horizon, qu'est-ce, ô toi, que la terre hurle ce songe et voit dans la clarté s'altère l'espace a pour jouet le cri. Je ne sais pas. Le maître, par un œil profond, a sur ses pas apaisé de l'Éden l'inquiète merveille dont le frisson final dans sa voix seule éveille pour la rose et le lys le mystère d'un nom. Est-il de ce destin rien qui demeure, non? Oh, vous tous.